Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
1h30 de débrief, que du bonheur les amis, avec nos experts qui sont là. Et on est très heureux d'accueillir Salim Nassur. Salut Salim.
Bonsoir.
Fondateur de Mars, ancien directeur marketing de Google Cloud Europe. Mars avec...
Deux A, monsieur.
Très important.
Hyper important.
À tes côtés Didier Sens. Salut Didier.
Salut.
Avec un Z. Voilà, ça suffit.
Voilà.
Seul.
Et journaliste, bien sûr, depuis quelques années, on va dire, dans la tech. Autre journaliste qui est depuis quelques années dans la tech, c'est Frédéric Simotel. Salut Fred.
Salut, bonsoir à tous.
T'es pas un perdreau de l'année.
Voilà. Non, quelques années au compteur. Oui.
Voilà, et à tes côtés, c'est Michel Lévy, Provençal. Salut Michel.
Salut François.
Prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Voilà, nos quatre experts ce soir pour revenir sur toute l'actualité Apple, hein, parce qu'on va évoquer dans un instant avec Aude les résultats financiers, mais Apple préparait un Siri un petit peu plus intelligent. On reviendra aussi sur la keynote de demain, hein, qui se déroulera dans l'après-midi. En tout cas, heure française, que va annoncer Apple, on va y revenir. Et puis tout à l'heure, on parlera aussi du départ de Jack Dorsey de son réseau social Blue Sky. Est-ce que ça sent le sapin, tiens, pour Blue Sky ? Ou est-ce que c'est simplement une étape concernant ce réseau ? On verra ça tout à l'heure. On va parler d'espace, je le disais, de Tesla aussi, d'Elon Musk et de Bill Gates. Voilà, que du beau monde. Oui. Mais pour débuter, on accueille comme prévu Aude Kersulec. Bonsoir Aude.
Bonsoir François. Bonsoir.
Et on commence bien sûr par les chiffres d'Apple qui sont assez mitigés, hein.
Oui, d'un point de vue global, c'est vrai, on peut se dire que le trimestre est mitigé, recul du chiffre d'affaires de 4% par rapport à l'an dernier, 90 milliards d'euros tout de même. Recul du résultat net aussi par rapport à l'an passé, là qui s'élève un petit peu plus de 23 milliards d'euros, moins 2% par rapport à l'an dernier. Alors cette faiblesse s'explique par un recul des ventes de l'iPhone, l'iPhone qui recule notamment largement en Chine, et c'est quand même moins 10% des ventes d'iPhone par rapport à l'an passé. On a aussi un recul des ventes d'iPad ou encore des autres produits, notamment l'Apple Watch ou encore le Vision Pro. Mais le point positif, c'est qu'Apple a réussi à détourner l'attention avec une très belle performance, et c'est même un record pour les services, plus de 23 milliards d'euros dans les services, plus 14%, une performance à deux chiffres. Ça fait déjà plusieurs trimestres que ce sont les services qui poussent la belle performance d'Apple, donc les services, c'est Apple Store, Apple Music, Apple TV. Ça veut dire que la base d'appareils vendus et installés par Apple est très active. La satisfaction et la fidélité des clients, a dit le directeur financier, qui n'a pas manqué de rétribuer, non pas ses clients, mais ses actionnaires, par un gigantesque rachat d'actions, gigantesque, 110 milliards de dollars d'actions rachetées. Compte tenu de notre confiance dans l'avenir d'Apple, là je cite encore le directeur financier, et c'est un coup fort quand même de la part d'Apple, parce qu'on dit généralement qu'en bourse, quand on rachète ses actions, c'est qu'on ne sait pas quoi faire de son argent, qu'on n'investit pas, et là finalement Apple réussit à faire un gros coup.
Merci beaucoup, c'était Aude Kersulec donc pour les commentaires de ces résultats financiers d'Apple qui sont, on va dire en demi-teinte, beaucoup de rouge, vous l'avez vu dans l'infographie si vous êtes avec nous à la télé, les iPhones ça va pas, les iPads ça va pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va pas,
le Vision Pro,
qui est dans les services, c'est-à-dire que c'est pas que le Vision Pro, parce que évidemment Apple ne communique pas sur les seules ventes du Vision Pro, c'est tout ce qui touche avec les autres services d'Apple, c'est-à-dire les Apple Watch, etc. Mais alors qu'est-ce que se passe-t-il chez Apple, parce qu'on pourrait se dire c'est un trou d'air, ça arrive, mais là ça fait quand même quelques trimestres que on voit qu'Apple est à une espèce de plafond, voire même parfois des baisses assez importantes, moins 10% pour les iPhones. Michel, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est énorme.
Bah, ils arrivent dans un océan qui est plus que rouge. C'est un océan écarlate avec une concurrence, notamment en Chine, avec la possibilité demain d'avoir des mobiles à un prix drastiquement plus faible que ceux des iPhones. Alors la stratégie qui consistait à en faire un produit de luxe, elle arrive à sa limite. On voit bien qu'ils cherchent de nouveaux canaux de distribution, en l'occurrence de services avec le Vision Pro, mais là, manque de bol, ça marche pas aussi bien que ce qu'ils attendaient. Donc les ventes sont inférieures à ce qu'ils attendaient. Ils ont prévu d'arrêter d'ailleurs la production de Vision Pro pour cette année et sont en train de réfléchir à avoir un casque beaucoup moins cher hardware pour 2025 voire 2026. Donc oui, le hardware chez Apple, c'est difficile. En revanche, les services, eh bien, ils cartonnent parce qu'il y a une base installée qui est très efficace. Et puis, d'une certaine manière, ils n'intègrent pas les services, l'IA. Pas encore, en tout cas. On va voir ce qui va se passer avec l'IA. C'est un point intéressant, ça.
Alors, avant de donner la parole à Salim et à Fred, Didier, tu suis l'actualité Apple depuis de très nombreuses années. C'est une période inédite, hein, pour Apple, qui est, on a l'impression, à manger son pain blanc.
C'est une époque inédite, si tu veux, mais qui était anticipable. Parce que l'idée d'Apple, comme beaucoup d'entreprises de la tech à une certaine époque, est de switcher tout doucement du hardware au software, du matériel au service. Le service, c'est pas seulement ce qu'on connaît, c'est-à-dire la musique en ligne, le site de streaming Apple TV, c'est aussi le pourcentage pris sur les applications qui sont vendues sur l'App Store. Donc ça, c'est un énorme trésor de guerre sur lequel ils sont assis. Et le matériel en question, ils le boostent sans arrêt pour essayer de lui donner une nouvelle croissance, hein, avec les nouvelles puces M3 et bientôt M4, etc. On s'aperçoit de deux choses, c'est que d'une part, effectivement, comme le dit Michel, la stratégie du luxe à tout prix, bah, elle a des limites. Les gens vont pas payer 1 250 € chaque année, surtout pour des innovations qui sont pas majeures.
C'est ça.
Les innovations restent quand même très limitées. On n'a pas encore de killer application de l'iPhone qui permettra d'en changer comme ça. Donc il y a ça, il y a ce problème-là. Il y a le problème effectivement de la concurrence, notamment sur le marché chinois, qui est un énorme marché en devenir pour Apple. Et puis le fait que y a des formules qui marchent pas très bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir le recul de l'iPad. Alors c'est vrai que l'iPad n'a pas beaucoup évolué ces derniers temps, mais moi je mets ça en parallèle avec la montée en puissance du Mac. Le Mac non seulement se maintient, mais il fait des bons scores, il est positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement l'idée que l'informatique de demain que nous avait vanté Tim Cook en disant que l'iPad c'était le PC qui remplace le PC, une espèce de révolution, les gens n'en adhèrent pas forcément. L'iPad, il a un marché qui est un marché de niche, hein, qui est celui des créatifs, des exécutifs qui ont besoin d'hypermobilité, mais celui du cœur de l'informatique, des développeurs, etc., ça reste le Mac. Et le Mac, il continue à avoir un beau chemin qui se dessine devant lui.
D'ailleurs, on reparlera peut-être de l'iPad dans quelques minutes, puisque oui. Normalement, devrait être annoncé demain de nouveaux iPads, mais on y reviendra. Salim, que dire sur Apple? D'accord avec la réflexion de Michel et de Didier?
Complètement d'accord avec la réflexion de Michel et de Didier. Je vais même rebondir sur les deux d'ailleurs. Tu parlais d'iPad, tu parlais d'océan rouge voire écarlate. Demain, il y a les nouveaux iPads qui vont être annoncés. On attend tout ce qui est une nouvelle couleur, la couleur écarlate. J'ironise, mais en gros, ce qui arrive à Apple aujourd'hui, c'est ce qui arrive à toutes les entreprises et plus particulièrement à des entreprises tech. C'est qu'à un moment, si tu n'innoves plus, sauf en changeant les couleurs chaque année, à un moment, le consommateur va ailleurs. Et c'est ce qui est arrivé c'est ce qui est en train d'arriver à Apple. Donc, effectivement, c'est essayer d'aller chercher des nouveaux gisements de croissance avec le casque. Tu sais, comme j'étais plutôt, mitigé sur cet usage. Donc, ils l'ont pas. Il n'y a pas la voiture, il n'y a pas le casque, il reste les iPhones. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'innovation. Donc, tout le monde attend ce qu'a fait, par exemple, un Samsung avec l'arrivée de l'IA dans le Samsung. Donc, tout le monde attend que Apple mette de l'IA dans l'usage de ses iPhones. Et là, peut-être qu'à un moment, ça repartira sur cette croissance. Mm-hmm. Sinon, aujourd'hui, c'est arrivé à Nokia, c'est arrivé à d'autres. Quand tu n'innoves pas, forcément, tu perds il y a ta base d'utilisateurs qui s'érode. Après, faut raison garder, hein, comme on dirait.
Oui,
une entreprise qui fait 23 milliards de bénéfices sur un trimestre, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient mal aller comme ça. Hein. Donc, ils ont encore de quoi voir venir. Mais là, je pense que 2024, ça va vraiment être une année hyper cruciale pour Apple. S'ils ne sortent pas quelque chose de disruptif, ils vont passer dans la case de « on est en avance » à « on devient des ringards ». Et c'est jamais très bon d'être dans cette case-là.
Est-ce que, Fred, on assiste à, en fait, une lente, baisse de l'attention chez Apple, en tout cas de la part des clients, parce que justement, comme le disait Salim, il y a moins d'innovation. On suit effectivement chaque année les nouveaux iPhones, et c'est vrai que parfois on se dit, mais c'est quoi la différence entre le 13 et le 14 ou le 15? C'est compliqué, quoi.
Je pense qu'on arrive aussi, moi je regarde souvent le côté du capital humain. Il y en aurait aussi une fin de génération chez Apple, hein. Bon, Johnny Ive est parti il y a un moment, mais même dans les équipes, les gens peut-être ont un peu moins envie de travailler chez un peu comme en France, hein. Les gens veulent moins travailler pour des grandes entreprises, préfèrent lancer leur start-up, surtout quand ils voient comment tout d'un coup on licencie 20 000 personnes comme ça, ils se disent bon tiens, et les jeunes pleins d'espoir, ils veulent peut-être plus aller voir des start-up ou voir des entreprises. On parle beaucoup d'IA, ben, on va être plus attiré vers un OpenAI, vers des entreprises qui investissent, que Apple pour l'instant qui nous vend de l'iPhone. On sait pas, on connaît pas bien la stratégie IA. On va voir si l'iOS 18 annoncé le 10 juin, est-ce que ce sera, on va franchir une étape dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là, moins d'innovation, c'est des ingénieurs qui y croient peut-être un peu moins, une génération qui doit se renouveler, et la nouvelle génération, pour l'instant, elle n'est peut-être pas complètement chez Apple. Alors, il y a évidemment des gens hyper brillants, etc. Et Apple n'est pas fou, ils cherchent aussi les cerveaux. Mais les cerveaux, aujourd'hui, ils vont moins comme chez nous. Hein. À un moment, les gens voulaient aller chez Dassault Systèmes, chez Airbus, chez Renault, tout ça. Puis à un moment, il y a pas mal de cerveaux qui se sont dit, tiens, je vais aller dans des boîtes plus petites, voire créer mon entreprise. Et c'est la même chose là-bas. Donc, je pense qu'il y a aussi ce phénomène-là. Après, derrière, il y a...
Donc ça expliquerait, d'après toi, le fait qu'il n'y ait plus d'innovation, c'est ça ?
C'est un super point, je veux bien rebondir après là-dessus.
En partie, je pense qu'il y a, une génération de Johnny Ive qui n'y a plus. Je veux dire, en partie, ça peut être ça. Il y a la partie concurrence, évidemment. Bon, la concurrence est plus forte. Mais voilà. Et puis, le côté rachat d'actions, là, même si ce n'est pas la première fois qu'ils le font, quand même 110 milliards, bon, d'accord, ça redonne de la valeur à l'action. Ce que l'on dit souvent quand il y a un rachat d'actions, c'est aussi qu'on n'a pas dans le narratif, on sait pas où investir, donc du coup, allez, on va redonner de l'argent aux actionnaires, au moins eux seront contents. De toute façon, on a encore plein d'argent en poche, l'action va remonter, ça va nous maintenir à un bon niveau. Mais tu vois, le capital humain, moi je pense qu'il y a ce côté-là qui est important. Donc on va voir qui sont les... regarde toutes les dernières conférences, ce sera intéressant, tiens, je regarderai ça pour demain. Qui sont les nouvelles têtes qui sont sorties dans la santé? Oui, il y a quelqu'un qui est sorti dans le domaine de la santé, mais qui sont les nouvelles têtes à sortir dans les keynotes? C'est un peu les mêmes depuis 10-12 ans. Hein.
Mais oui, parce que c'est une boîte aussi qui vieillit, Apple.
Enfin, exactement.
Bon, Tim Cook en est le patriarche, digne représentant. D'ailleurs, il ne se cache pas qu'il est à bout de course aussi, qu'il est en train de préparer sa succession. C'est vrai, Didier, est-ce que finalement, ce n'est pas une boîte qui a, de par son confort et de son succès colossal, n'a pas prévu peut-être le futur d'Apple? Finalement, on a eu un Steve Jobs qui est parti, ça a été un électrochoc incroyable dans cette boîte. Finalement, il n'y a pas eu un changement radical dans le management depuis toutes ces années, depuis que Steve Jobs est parti.
Il y a eu des petits ajustements.
Des petits ajustements, mais si tu veux, les têtes pensantes, c'est toujours les mêmes.
Ouais, alors, moi, je ne partage pas entièrement cet avis, parce que pour avoir fait l'aller-retour souvent à Cupertino, justement, on avait parfois des têtes assez différentes, et c'était assez intéressant de voir qu'il y avait beaucoup d'équipes de jeunes qui étaient derrière les speakers officiels.
Mais non, je pense qu'Apple fait toujours rêver, finalement.
Mais
je pense.
Non.
Mais
non.
Je préfère aller chez Nvidia aujourd'hui. Hein.
Mais bien sûr.
Mais cela étant, j'ai du mal à imaginer. Enfin, c'est une boîte qui est aussi capable de rebondir, tu vois. Ils sont passés quand même du modèle de tout ordinateur à électronique grand public, d'électronique grand public à phénomène de mode avec l'iPod,
la musique,
etc. Encore plus accentué avec la Watch, avec les partenariats avec Hermès et compagnie. Enfin, donc c'est une boîte qui est capable d'avancer comme ça. Par touche dans différents domaines. Là où elle se plante, elle s'arrête. C'est le cas de la voiture, par exemple. Là, elle a pris son temps pour étudier les opportunités de l'IA. À mon avis, ça va déchirer, parce que si Apple commence à se lancer sur le sujet, ça veut dire qu'elle va devenir un standard.
Mais ils ont intérêt, en tout cas.
C'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire, quand elle arrive en retard sur une technologie, on a l'impression que c'est eux qui démocratisent cette technologie. On l'a vu sur le Wi-Fi, qui s'appelait à l'époque Airport, qui était c'était les premiers à montrer la démonstration. Voilà. Donc ce genre de on peut multiplier les exemples comme ça. Donc c'est une entreprise qui est capable de rebondir. Là pour l'instant.
Mais prends pas. Hein, je dis pas qu'ils sont morts. Je dis qu'ils ont un trou d'air. Et moi, ouais, parmi les raisons.
91 millions de.
Oui, mais non, mais un trou d'air par rapport à ce qu'on attend d'Apple, évidemment. Ça quelqu'un fait un qui bout sort de temps. 23...
Non, mais il a raison. Quand tu regardes à un moment, je sais pas si t'as regardé, mais tous les job desks, enfin toutes les job descriptions qui étaient ouvertes chez Apple pour trouver des gens qui faisaient de l'IA. C'est-à-dire qu'ils n'en avaient pas, si tu veux. Donc il y a vraiment ce truc de capital humain où tu as complètement raison, où tu vois qu'aujourd'hui, les grosses entreprises tech, et globalement les entreprises tech, sont en train d'être asphyxiées par deux phénomènes. Le premier, c'est celui de la bourse, quand même. On en parle pas assez, qui contraint tout le monde à pas trop prendre de risques. C'est ce qui s'est passé chez Google à un moment, quand on a changé de CFO, c'était ceinture bretelle, fallait pas trop prendre de risques. Donc si tu prends pas de risques, il n'y a pas d'innovation. Et si tu prends des risques, tu peux finalement perdre ton job. Donc, vaut mieux pas que tu prennes de risques. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Et bon, je crois que j'en ai parlé une fois, mais à une époque, on appelait Google le ministère du web, en fait. Parce que t'étais là, t'étais installé, tu voulais pas faire trop de bruit. Et ceux, effectivement, qui voulaient faire d'autres choses, et c'est ce que tu décris très bien, Frédéric, allaient faire ça dans d'autres boîtes qui avaient enfin envie d'innover. Donc, tu avais des gens qui étaient un peu planqués, qui sont là, tranquilles. Et puis, si tu as envie de faire bouger un peu comme ça se passe dans la Silicon Valley, parce qu'il faut bien voir que dans la Silicon Valley, si tu sors d'Apple, dans la rue d'à côté, tu as un nouveau job, etc. Et OpenAI, c'est exactement ça. Aujourd'hui, tout le monde va voir OpenAI, tout le monde va voir les boîtes qui sont un peu plus sexy. Donc, oui, tu as des jeunes, mais ce ne sont pas forcément des jeunes qui veulent changer un peu les choses comme il y avait avant. Ce sont des jeunes qui viennent pour se faire une carte de visite, pour dire je suis, et puis après mettre sur LinkedIn, je suis ex-Googler, ex-Apple, ex-Meta, etc. Et puis ensuite, soit vont aller dans des trucs à la OpenAI, soit vont aller créer leur propre entreprise.
Tu vas être racheté par Apple après.
Oui, et ça, mais complètement. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans les boîtes tech. Moi, j'en ai parlé beaucoup à l'époque où j'étais chez Google avec des gens un peu plus haut, si tu veux. C'est-à-dire, comment tu recrées cette attractivité? Et tu ne laisses pas, quelque part, la bourse piloter cette innovation. Parce que si tu fais ça, l'innovation meurt et finalement, la bourse aussi. Donc,
Michel, est-ce que tu es toujours une boîte désirable, en fait, pour les ingénieurs?
Je pense que c'est un peu tôt encore pour juger. On va attendre, un peu de recul par rapport au Vision Pro, parce que quand même, ils ont pris un risque avec le Vision Pro, important. Et ils y croient encore. Ils ont fait des annonces quant à l'utilisation du Vision Pro par les entreprises, pour essayer de contrer les mauvais chiffres de vente. Et puis, sur l'IA, et on va peut-être parler de l'IA chez Apple, mais c'est vrai qu'ils sont très en retard. Moi, je l'ai dit la dernière fois, je ne pense pas que l'IA sur iOS 18 arrivera cet été. Je pense que ce sera plutôt pour cet automne, parce qu'ils sont bien en retard.
Et ils vont l'annoncer cet été quand même.
Ils vont peut-être l'annoncer, mais rien n'apparaîtra dans la version d'iOS qu'on aura cet été. Il n'y aura pas de chatbot, il n'y aura pas de Siri, nouvelle version, il y aura peut-être un gimmick ou deux. Mais ce trou d'air, je suis assez d'accord, risque de durer encore jusqu'à 2025. La vraie question, c'est est-ce que Apple sera encore dans la même situation en 2025? Si c'est le cas, on pourrait presque dire qu'ils commencent à rentrer dans une phase qui peut être dangereuse pour eux. Parce qu'ils seront moins sexy. Je vous rappelle que le dernier Samsung, c'est pas pour faire de la pub, mais le Galaxy AI S24 de Samsung bat de très très loin les capacités de l'iPhone. Donc ils ont un vrai problème par rapport à ça. Et c'est pas que du hardware, c'est du software. Donc on rentre dans le domaine aussi du soft, des services, etc. Donc 2025 va être une année décisive, oui, je pense, pour Apple.
Mais d'autant qu'on annonce un iPhone 16, pas très innovant en termes de hardware, finalement.
Alors, on n'annonce rien.
Mais tu sais comme moi qu'on a toujours plein d'infos qui fuitent. Ouais. Visiblement, l'iPhone 16 ressemblerait beaucoup à l'iPhone 15. Et ce qui pourrait justement le différencier, c'est l'iOS 18 qui ajouterait une couche d'intelligence artificielle.
Voire une nouvelle couleur.
Ouh. Et ça, écarlate, même, je dirais.
Mais ce qui serait intéressant, c'est de s'interroger un peu sur quel doit être le profil, sans parler de nom, mais quel doit être le profil du successeur du
successeur
Tim
d'Apple.
Est-ce que ça doit être quelqu'un, un designer innovant?
Ça doit être un sacré casse-tête quand même. Ouais. Est-ce qu'on prend un historique d'Apple qui va tenir les rênes parce qu'il connaît tout par cœur, ou est-ce que tu prends quelqu'un, un junior,
pas parce que c'était pas quelqu'un junior, de charismatique, cas, parce que c'était un mec efficace, un opérationnel.
Et justement, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on... Ouais. quel est le profil, ou ça peut être 2-3 personnes, quoi, un peu un triumvirat avec le, puisque c'était un peu ça, hein, Johnny Ive, oui. Steve Jobs, Tim Cook, c'est un peu ce combo qui fonctionnait bien, un pour la partie logistique, l'autre pour la partie design, l'autre pour les parties idées,
stratégie.
Mais en tout cas, derrière, il y avait les technos derrière.
Bien vu d'avoir ramené ce point-là, parce qu'en fait, j'y réfléchissais, je me disais, c'est ce qui est arrivé aussi à Nintendo, tu vois, en fait, le board commençait à être vraiment un peu vieillissant et donc ils n'arrivaient pas à se renouveler. C'est ce qui est arrivé aussi à Intel, en fait. Hein, Intel, ils sont quand même passés
Sony,
à côté.
Il y en a plein.
C'est arrivé à Sony. Donc c'est vrai que là, on arrive à ce moment d'Apple de dire, OK, what's next? Même au niveau des ressources humaines, en fait. Hein, et c'est vrai qu'il n'y a pas tellement
après,
de succession.
L'avantage par rapport à d'autres entreprises, c'est que eux, je pense qu'ils ont la capacité à avoir quelqu'un qui, tu vois, je pense à Nokia, Intel, où les gens étaient un peu concentrés en disant, non, attendez, on est les numéro un, c'est bon, on va se renouveler. Ça va aller mieux et tout ça. Je pense que Apple a peut-être plus la capacité à se remettre en question, à dire attendez les gars, faut peut-être qu'on aille vers la santé, vers tel domaine. Chose qu'à l'époque, les Nokia, Intel se disaient on est archi dominant, personne va venir, on va continuer, on a
peut-être
un petit coup d'air, mais
personne ne pourra nous aider.
On va dérouler. Ouais. Et puis Nokia, on a vu ce qui est arrivé. Intel, on voit.
Tiens, on enchaîne sur le deuxième sujet lié à Apple. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Ça va être quoi le coup de génie de l'intelligence artificielle d'Apple? On le voit sur le Galaxy S24, donc il y a pas mal de fonctionnalités, hein, on en parlait, c'est la traduction simultanée, les résumés des réunions, etc., qui sont possibles avec la fonction dictaphone, on peut l'imaginer, mais visiblement tout serait concentré sur Siri. Ça, c'est des informations des rumeurs encore une fois, hein, mais Siri passerait à une phase 2, en quelque sorte, Didier, d'après ce que
vous dites. On ne peut pas imaginer qu'ils vont adopter l'intelligence artificielle sans faire évoluer Siri, puisque Siri était leur assistant personnel.
Et puis Siri incarne Apple, c'est ça le problème. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle à Siri, on parle à Apple.
Qui parle à Siri aujourd'hui?
Pour programmer ton alarme, tu le fais. Quoi.
Ouais, les gens s'en servent.
Ça marche sur deux.
Voilà, c'est
mais
ça.
Le fait est que le coup de génie d'Apple, enfin, si on s'en tient aux publications qu'ils ont faites, ce serait d'arriver à faire fonctionner cette intelligence artificielle, enfin ce modèle de langage, en local, sans accès au cloud. Ce qui est bien pour deux raisons. D'abord parce que, en termes de confidentialité, ça évite aux données de se balader à droite à gauche. Et puis en termes de réactivité. Le problème de ChatGPT, de Claude, de tous ces... de tous ces
modèles d'intelligence
artificielle, c'est que le temps qu'on lui pose une question mais qu'il réponde, il s'est déjà passé 2 secondes. C'est rien, 2 secondes. Mais normalement, c'est un peu frustrant.
Sauf Grok.
Oui.
Il est plus rapide, Grok.
Ah, Grok est instantané.
Pas celui
d'Elon
Musk, mais l'autre. Oui.
Non, voilà, le Grok avec.
Ah oui,
il est incroyable.
C'est incroyable. Voilà. J'avais reçu le patron de Grok, le CEO Jonathan Ross, qui est venu sur le plateau de Tech & Co.
Ah ouais, il est venu ici.
Oui, il est venu ici.
C'est un ancien Google.
Exactement. Et il est venu, c'était quoi, il y a 2-3 semaines. Interview à retrouver en replay, mon cher Salim.
Donc c'est intéressant.
Donc Siri passerait à la vitesse supérieure.
Voilà, Siri passerait à la vitesse supérieure, serait capable de faire plus de choses que ce qu'il fait aujourd'hui, et surtout, il agirait en local, donc ça évite tous les problèmes liés au cloud, puis ça permettrait de l'utiliser dans un avion, ce qui pour l'instant avec Siri est un peu compliqué.
Oui, je crois pas trop à cette option-là, même si c'est effectivement une des annonces d'Apple. D'ailleurs, il publie modèles en open source, hein, qui sont des modèles light, hein, des modèles très légers, qui peuvent tourner effectivement sur un iPhone. Hein. Le problème, c'est que ces modèles-là ne sont pas très puissants. Et leur discussion actuelle avec non seulement Google pour Gemini et d'autre part OpenAI pour probablement GPT 4.5... prouve qu'ils ne vont pas pouvoir faire tourner un GPT 4.5 ou un Gemini sur un iPhone. Donc, ils sont un peu bloqués. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où forcément le marché les pousse à aller vers l'IA. C'est le cas de Galaxy qui pousse, d'une part. D'autre part, leur promesse est fondamentale chez Apple. La privacy, c'est un élément clé de la stratégie d'Apple. Comment est-ce qu'ils répondent à la privacy en ayant une qualité de services équivalentes à leurs concurrents, tout en étant conformes à leurs promesses.
Ouais. Alors que l'IA, on le sait, se nourrit justement de tout ce qu'elle scrolle sur Internet.
Non, ils sont vraiment dans une position très délicate aussi sur le plan de l'IA. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'avant la fin de l'année, on n'aura pas vraiment d'IA ou de nouveaux Siri opérationnels, je pense, sur les iPhones.
Eh ben alors, on aura un mauvais trimestre, un mauvais prochain trimestre, parce que si ils n'annoncent rien sur l'IA avec la sortie de l'iPhone 16, qui devrait
être en septembre, mais ce sera probablement pas dispo.
Ouais.
Je pense qu'ils vont annoncer.
C'est un bon moment pour acheter les actions Apple.
Oui, c'est ça, exactement. En attendant le prochain coup qui les fera monter. Il nous reste une trente. Demain, vous le savez, donc keynote Apple. Alors, petite keynote invisiblement, puisqu'il devrait annoncer. Didier,
de nouveaux iPads. Ouais, parce qu'ils n'ont pas été renouvelés depuis des mois, si ce n'est des années. Ouais. Donc,
L'iPad se porte mal, hein. Les ventes d'iPad sont.
C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Moi, je pense que l'idée de le positionner comme un concurrent à l'ordinateur, comme une alternative, est une bêtise. Mais là, il y a moyen avec. Donc, ils vont muscler l'iPad Pro. Vraisemblablement, ils vont introduire peut-être la puce M4, moi j'y crois pas trop, mais en tout cas la puce M3, c'est clair. Et puis ils vont sans doute renouveler aussi l'écran, qui sera un écran OLED.
Ça peut être pas mal.
Ça peut être très bien. Plus précis. Non,
franchement, la qualité OLED, c'est une qualité de confort visuel et de contraste et de beauté. Oui. Top. Oui. Je comprends pas pourquoi Apple ne l'ait pas fait avant. Hein,
les
tablettes Samsung, ça fait des années qu'il y a des
écrans OLED. Tu renouvelles pas juste pour ça.
Non, bien sûr. Il va avoir sans doute ils vont l'accompagner d'un stylet qui sera beaucoup plus performant.
Et l'iPad, cela dit, c'est l'ordinateur portable des nomades, en fait.
Des exécutifs, ce que je.
Non, oui, ou des exécutifs, mais aussi même. C'est les gens qui sont un peu digital nomades, il y en a pas mal, tu les vois dans des cybercafés avec leur iPad, etc. Parce que c'est juste pour faire un peu de.
Oui, du traitement de texte.
De traitement de texte ou un peu de TikTok ou machin, t'as pas besoin de.
Oui, mais t'as pas la productivité que tu as avec un vrai PC quoi, ou un vrai Mac.
Du montage vidéo avec un iPad, c'est pas facile. Mais
c'est pas évident.
Et puis la qualité des PC quand même, aujourd'hui des PC portables beaucoup plus légers, avec du touch. Ouais. Écran tactile. On a les deux écrans maintenant. On a vu ça. Enfin, les nouveaux là, on peut développer avoir deux écrans sur un seul. Enfin, le Yugi là.
Dit, tu peux avoir deux écrans avec ton iPad et ton Mac.
Oui, mais là c'est sur un seul écran. Ouais.
Ce qui est très étonnant, terminer, et ça a été à un moment donné. Il me semble évoqué par Apple, c'est qu'on n'ait pas eu une convergence entre macOS. Et iOS et
l'iPad OS. Ça arrive de plus en plus.
Parce que ce qu'a fait Microsoft, en effet, aujourd'hui, quand on achète un PC portable, en réalité, c'est aussi une tablette. On peut écrire dessus. Et Apple ne l'a pas fait. Alors qu'il pourrait avoir la puissance du MacBook, qui sont extrêmement puissants. Certains MacBooks sont vraiment très puissants. Et de l'autre côté, avoir un écran tactile où on retrouve la dimension iPad.
C'est le veto de Steve Jobs.
Et on en revient aux histoires d'humains. Ce n'est pas les mêmes équipes. Ils ne sont pas sur le même machin. Alors que chez Microsoft, on les a tous.
On dirait qu'ils n'ont pas innové.
C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
Bon, allez, voilà. C'était notre petite demi-heure Apple. Il y avait quand même pas mal de choses à dire. La suite au prochain numéro. Demain, on évoquera les annonces qui seront faites concernant les iPads, à mon avis, ça va aller vite.
Évidemment défendu Apple ce soir.
Mais bien sûr, on le salue, Damien. Voilà, il vient nous voir souvent.